VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. À Madagascar, un nouveau Premier ministre pour sortir le pays de la crise politique.
Il n'est pas très connu du milieu public, mais il est connu du milieu politique. Cette tâche ne sera pas facile, bien sûr, parce qu'en ce moment, c'est un peu le bazar. Hein.
Dans le nord du Burkina Faso, un pasteur et ses proches enlevés. L'opposition ivoirienne s'insurge contre l'idée d'un troisième mandat pour le président Alassane Ouattara.
C'est un discours politique du président qui ne cadre pas avec la réalité juridique.
Au Nigeria, 182 prisonniers se sont évadés d'une prison dans le centre du pays. En Afghanistan, un kamikaze a tué au moins 7 personnes à Kaboul, la capitale. Et dans la Minute Éco, 20 millions de dollars approuvés par le FMI au bénéfice du Niger. Et à 10 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les équipes africaines dévoilent leur liste des 23 joueurs retenus dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. À Madagascar, le président a nommé ce lundi un nouveau premier ministre. Il s'agit du haut fonctionnaire international Christian Tsai, qui est désormais chargé de former un gouvernement de consensus pour tenter de sortir le pays de la crise politique. Sa nomination intervient quelques heures à peine après la démission d'Olivier Maafali Solonan Drantsan. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
J'ai nommé Premier ministre Christian Tsai, un homme expérimenté et ayant les compétences pour l'apaisement, a déclaré le président Eri Rajamampiam. Un peu plus tôt, Olivier Maafali Solonan Drantsan et son gouvernement, en poste depuis 2 ans, ont démissionné. Le nouveau Premier ministre Christian Tsai était jusque-là un haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail. Il a exercé les fonctions de ministre du Travail de 2002 à 2003, mais n'est membre d'aucun des 3 principaux partis politiques. La Haute Cour constitutionnelle a ordonné il y a 10 jours la nomination.
Nous y reviendrons tout à l'heure dans la partie magazine. Un nouveau enlèvement au Burkina Faso. Un pasteur et 5 autres personnes, dont son fils, ont été enlevés dimanche à leur domicile dans la province du Soum, dans l'extrême nord du pays. On y reviendra sur cet incident. Les 2 humanitaires, un Américain et un Allemand enlevés récemment au Niger, sont vivants. C'est ce qu'a déclaré le président Mahamadou Issoufou en visite en ce moment à Paris. On continue à créer les conditions de leur libération, a-t-il dit, en ajoutant que les opérations en cours serviront peut-être à parvenir à cet objectif. Il a précisé qu'il était difficile de dire où ils se trouvent, mais il est plus probable qu'ils soient au Mali, fin de citation. Et par ailleurs, Mahamadou Issoufou a insisté également sur la nécessité de recevoir des fonds pour la force conjointe du G5 Sahel. Emmanuel Macron a lui aussi appelé les pays ayant promis des contributions à matérialiser leurs engagements. Le président a toutefois assuré ce lundi que le chemin parcouru par la nouvelle organisation régionale anti-djihadiste était satisfaisante. Il a déclaré « Ce sur quoi il faut nous accélérer, ce sont les financements internationaux. » On revient sur le Burkina Faso avec ses nouveaux enlèvements dans le pays. Un pasteur et 5 autres personnes, dont son fils, ont été enlevés dimanche à leur domicile dans la province du Soum, dans l'extrême nord du pays. Des précisions avec Bagassi Koura.
Selon les médias locaux citant des sources sécuritaires et locales, 6 personnes ont été enlevées par une dizaine d'individus armés non identifiés venus enturbaner à moto. Le pasteur Pierre Boina, 55 ans, a été enlevé avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils, ainsi que 2 malades venus pour des prières. Ce rapt intervient 2 semaines après celui de Mathieu Savadogo, catéchiste de Basse-Néré, et son épouse par des hommes armés enturbanés dans la même région à la frontière avec le Niger et le Mali. C'est dans la même zone qu'Issoufou Souabo, enseignant à l'école primaire de Bourreau, a été enlevé le 12 avril dernier. C'est aussi là qu'a été kidnappé en janvier 2016 le docteur Elliott, médecin australien qui est toujours retenu en otage par ses ravisseurs. Mais son épouse a été libérée après quelques mois de détention.
Au Nigeria, 182 prisonniers se sont évadés d'une prison du centre du pays après que des hommes non identifiés ont ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire. L'attaque s'est produite à la prison de la région de la capitale de l'État du Niger, Mina. Sur les 210 prisonniers qui se sont échappés, 28 ont été repris et 182 sont toujours en fuite, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Au Cameroun, le principal opposant politique anglophone, John Fundi, affirme que le président Paul Biya devrait être poursuivi pour crimes contre l'humanité par la communauté internationale pour sa gestion de la crise en zone anglophone. Les anglophones ont besoin de justice, d'après lui. Il conteste toujours la version officielle des événements survenus le 25 mai à Manka, là où, d'après le porte-parole du gouvernement, 27 terroristes ont été neutralisés et 5 otages tués par les terroristes. En République démocratique du Congo, le parc de Virunga, refuge des gorilles de montagne dans l'est du pays, va rester fermé jusqu'à l'année prochaine en raison de l'insécurité. Cette décision fait suite à l'enlèvement de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur congolais par un groupe armé il y a 3 semaines et à la mort d'un ranger du parc qui avait tenté de s'interposer. Les 3 otages ont été libérés 2 jours plus tard, mais la direction du parc, qui avait dans un premier temps décidé de suspendre toute activité touristique jusqu'au 4 juin, a estimé qu'il n'était pas possible de garantir en l'état la sécurité des visiteurs. L'armée américaine annonce lundi avoir tué 27 combattants islamistes somaliens Shebab dans le cadre de l'offensive conduite contre ces djihadistes. Cette frappe a été menée samedi dans le Somaliland. Aucun civil n'a été tué. Les États-Unis indiquent que les troupes américaines continueront de faire usage de toutes les mesures autorisées et appropriées pour protéger les citoyens américains et désactiver les menaces terroristes. En Tunisie, la marine nationale a repris ses recherches ce lundi au large de la région de Sfax, dans le sud du pays, au lendemain de la mort d'au moins 48 migrants dans le naufrage de leur embarcation. Mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Marie Benson.
68 migrants ont pu être secourus. Alors que les recherches se poursuivent pour essayer de trouver d'éventuels survivants, les conditions climatiques sont difficiles pour les sauveteurs. Selon le ministre de l'Intérieur tunisien, l'embarcation avait été repérée dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle était sur le point de couler. Un survivant a affirmé que plus de 180 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation, qui ne pouvait contenir que 90 personnes. Seulement 24 corps sur 48 ont été identifiés. Il s'agit de 10 Tunisiens et 14 personnes d'Afrique subsaharienne. Depuis 2017, la migration clandestine s'intensifie en Méditerranée. Les migrants tentent de rejoindre l'Italie pour une vie meilleure. Nombreux perdent la vie en traversant la mer dans des embarcations de fortune, malgré les nombreux moyens déployés pour leur venir en aide.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Guatemala, nouveau bilan de 33 morts après l'éruption d'un volcan. Le volcan Fuego a craché de la lave et des cendres sur des kilomètres à la ronde. 3 jours de deuil national ont été décrétés. En Afghanistan, un kamikaze a tué au moins 7 personnes à Kaboul, la capitale. L'assaillant a déclenché sa bombe près d'un rassemblement d'imams qui voulaient se prononcer pour la paix et contre le terrorisme. Les détails avec Lionel Gaïma.
L'assaillant s'est présenté à pied, s'est fait exploser devant l'entrée de la tente où se tenait la Loya Jirga, la grande assemblée des milliers d'oulémas venus de 34 provinces afghanes. D'après le porte-parole de la police de Kaboul, Ashmat Stanikzai, 7 personnes ont été tuées, dont un policier et 9 blessés. Le ministère de la Santé parle de 18 blessés. Au moins 3000 religieux ont participé à cette conférence et venaient de décréter une fatwa. Ils ont présenté le contenu du décret religieux en 7 points qui déclarent les attaques suicides et les explosions sont contraires à l'islam et constituent un péché majeur. Les talibans avaient rapidement affirmé qu'ils n'avaient rien à voir avec l'attaque qui a été aussitôt revendiquée par le groupe État islamique.
Le guide suprême iranien Ali Khamenei a mis en garde les Européens. Selon lui, son pays ne pourrait continuer d'accepter de brider son programme nucléaire tout en se retrouvant sous sanctions économiques. Je dis à ces pays qu'ils doivent être conscients qu'il s'agit là d'un rêve qui ne se réalisera pas. Le peuple et le gouvernement d'Iran ne tolèreront jamais de devoir se porter à la fois des sanctions et des limitations en matière nucléaire, a-t-il déclaré. Benjamin Netanyahou a mis en garde Angela Merkel contre un nouvel afflux de réfugiés syriens en Allemagne si rien n'est fait pour contenir l'influence croissante de l'Iran au Moyen-Orient. Il a accusé Téhéran d'organiser le déploiement massif en Syrie de milices chiites, originaires notamment d'Afghanistan et du Pakistan, sous commandement militaire iranien, avec un objectif militaire mais aussi religieux. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
20 millions de dollars, c'est le montant du décaissement qui a été approuvé par le Fonds monétaire international au bénéfice du Niger. Ce financement intervient au titre de la facilité élargie de crédit. Cette approbation porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 60 millions de dollars, selon le FMI qui vient d'achever la deuxième revue du programme économique et financier du pays. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a lancé hier à Lukishar, dans le nord-ouest du pays, un programme pilote destiné à l'exportation du pétrole brut. Ce programme biannuel prévoit l'acheminement de quelques 2000 barils par jour par camion vers le port de Mombasa, depuis les puits de pétrole situés dans le nord-ouest du Kenya. Les réserves de pétrole au Kenya sont estimées à 560 millions de barils. La filiale marocaine du géant français de l'alimentaire Danone, qui fait face depuis 6 semaines à une campagne inédite de boycott au Maroc, a annoncé lundi s'attendre à une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires. Centrale Danone, filiale du groupe au Maroc, prévoit une perte nette d'environ 13 millions d'euros au premier semestre 2018, contre un bénéfice net de 5 millions d'euros sur la même période l'année dernière.
Et c'était John Lydon. On a de petits problèmes techniques. Nous allons passer tout de suite à la partie magazine. En Côte d'Ivoire, le président n'exclut pas un troisième mandat. Alassane Ouattara, dont le deuxième s'achève en 2020, estime que les mandats effectués avant le changement de constitution de 2016 ne comptent pas. L'opposition ivoirienne n'a pas tardé à réagir en affirmant que cette idée du chef de l'État est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable, y voyant même une provocation. Pour une analyse, Morgane Guiriec a joint le politologue André-Sylvère Conan. André-Sylvère Conan, on a des petits problèmes techniques. Je vais passer au prochain magazine. À Madagascar, le président a nommé Christian Tsaye comme nouveau premier ministre. La Cour constitutionnelle avait donné une semaine au président malgache pour donner un nouveau gouvernement de consensus. Le pays est plongé dans une crise depuis plusieurs semaines. Alors, qui est le nouveau chef du gouvernement malgache? Idriss Fall a joint à Antananarive notre confrère Randy Doni. Et on a de sérieux problèmes techniques. On va repartir sur la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Nous avons l'analyse de notre politologue André-Sylvère Conan.
C'est un discours politique du président qui ne cadre pas avec la réalité juridique. Effectivement, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2016, alors que lui, il a été élu en 2015. La disposition sur la limitation des mandats n'a pas changé entre les constitutions de 2000 et 2016. N'ayant pas une norme nouvelle, cette norme donc de la limitation des mandats touche le président actuel.
Mais lui, il dit que ces élections de 2010 et 2015 ne compte pas.
Si ces élections ne comptent pas, sur quelle base ils gouvernent actuellement? Il y a dans le vote d'une constitution ce qu'on appelle la lettre et l'esprit. Dans l'esprit, avant l'adoption de la nouvelle constitution en 2015, le président Alassane Ouattara s'était clairement exprimé dans le sens qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat et que la disposition précise sur la limitation des mandats ne serait pas concernée par la nouvelle constitution. Les électeurs sont partis dans les urnes dans l'esprit que la limitation était fixe pour lui, aussi bien pour tous ceux qui avaient déjà un mandat en Côte d'Ivoire. La disposition sur la limitation des mandats n'a pas changé du tout. Et de ce fait, il n'y a aucune rétroactivité qui s'impose là.
Des observateurs estiment qu'il utilise la menace de se représenter pour faire taire les querelles au sein de son camp concernant sa succession. Est-ce que c'est votre avis ?
Je pense qu'il utilise cela, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et ce ne sont certainement pas ces déclarations de M. Ouattara qui empêchent M. Soro d'être en pré-campagne. Et donc, moi, je dis, ce sont des intentions qu'on lui prête. Mais à la lettre, c'est qu'il affirme aujourd'hui qu'il peut être candidat.
Alors, Alassane Ouattara affirme que la stabilité et la paix passent avant tout. Quel pourrait être l'impact d'un troisième mandat sur la stabilité du pays ?
Ça va être la porte ouverte à une crise sociale, politique et économique grave. Peut-être pas dans l'envergure de celle que nous avons connue en 2010, mais ce sera la plus grave crise après la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010. Pour la stabilité, pour la paix, pour la continuité de l'État, la meilleure chose pour lui, c'est de ne pas se présenter contre vents et marées, contre l'avis de la Constitution et contre l'avis d'une certaine partie de la population.
Et c'était l'analyste politique ivoirien André Sylvère Conan, joint par Morgane Guiriec.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et on retourne sur Madagascar. Le président a nommé ce lundi un nouveau premier ministre qui s'appelle Christian Ntsaye. La Cour constitutionnelle avait donné une semaine au président malgache pour nommer un nouveau gouvernement de consensus alors que le pays est plongé dans une crise depuis plusieurs semaines. Alors Idriss Fall a joint à Antananarive notre confrère Andy Doni. Donc on a un problème avec ce magazine, on va partir donc au Burkina Faso. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé samedi dernier une marche meeting à Ouagadougou. Il s'oppose à la volonté du gouvernement d'introduire des moustiques génétiquement modifiés dans le pays pour lutter contre le paludisme. Yacouba Ouedraogo a joint Ali Tapsoba, le porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie. Nous n'avons pas ce magazine, on passe au Niger. Les musulmans du Niger observent depuis 20 jours le jeûne du mois de Ramadan. Dans ce pays laïque à plus de 90% musulmans, ne pas jeûner sans raison valable est parfois mal perçu. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous plonge dans l'univers des non-jeûneurs à travers ce magazine. Si on a de la chance de l'avoir, on ne l'a pas. Je reviens sur les principaux titres de l'actualité. Donc à Madagascar, le président a nommé ce lundi un nouveau premier ministre. Il s'agit du haut fonctionnaire international Christian Ntsaye, qui est désormais chargé de former un gouvernement de consensus pour tenter de sortir le pays de la crise politique. Les nouveaux enlèvements au Burkina Faso, un pasteur et cinq autres personnes dont son fils ont été enlevés dimanche à leur domicile dans la province du Soum, dans l'extrême nord du pays. Les deux humanitaires, un Américain et un Allemand enlevés récemment au Niger, sont vivants. C'est ce qu'a déclaré le président Mahamadou Issoufou en visite en ce moment à Paris. On continue à créer des conditions de leur libération, a-t-il dit, en ajoutant que les opérations en cours serviront peut-être à parvenir à cet objectif. Il a précisé qu'il était difficile de dire où il se trouve, mais il est plus probable qu'il soit au Mali. Et par ailleurs, Mahamadou Issoufou a insisté sur la nécessité de recevoir les fonds pour la force conjointe du G5 Sahel. Emmanuel Macron a lui aussi appelé les deux pays. Les pays ayant promis des contributions à matérialiser leurs engagements. Le président a toutefois assuré ce lundi que le chemin parcouru par la nouvelle organisation régionale anti-djihadiste était satisfaisante. Au Nigeria, 182 personnes se sont évadées d'une prison du centre du pays après que des hommes non identifiés ont ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire. L'attaque s'est produite à la prison de la région de la capitale de l'État du Niger, Mina. Sur les 210 prisonniers qui se sont échappés, 28 ont été repris et 182 sont toujours en fuite, selon le ministre de l'Intérieur. Au Cameroun, le principal opposant politique anglophone, John Froudi, affirme que le président Paul Biya devrait être poursuivi pour crimes contre l'humanité par la communauté internationale pour sa gestion de la crise en zone anglophone. Les anglophones ont besoin de justice, d'après lui. Il conteste toujours la version officielle des événements survenus le 27 mai à Manka, là où, d'après le porte-parole du gouvernement, 27 terroristes ont été neutralisés et 5 otages tués par les terroristes. En République démocratique du Congo, le parc des Virunga va rester fermé jusqu'à l'année prochaine en raison de l'insécurité. Cette décision fait suite à l'enlèvement de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur congolais par un groupe armé il y a 3 semaines. L'armée américaine annonce lundi avoir tué 27 combattants islamistes somaliens Shebab dans le cadre de l'offensive conduite par ces djihadistes contre ces djihadistes. Cette frappe a été menée samedi dans le Somaliland. Aucun civil n'a été tué. En Libye, accord pour un retour des déplacés de Tawarga après des années d'exil, selon le gouvernement d'union nationale. Les 35 000 habitants de la ville qui se sont battus jusqu'au bout aux côtés de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi ont été enfermés pendant plus de 7 ans dans des camps en périphérie de la capitale libyenne où ont vécu dispersés dans le pays des conditions déplorables après l'interdiction de rentrer chez eux. Le chef Fayez al-Sarraj s'est félicité du pacte de réconciliation paraphé par les maires de Tawarga et de Misrata, ville connue pour avoir été la pointe de la révolution contre Kadhafi. Et à l'international, donc le Guatemala, nouveau bilan de 33 morts après l'éruption du volcan Fuego. Le volcan a craché de la lave et des cendres sur des kilomètres à la ronde. 3 jours de deuil national ont été décrétés. La Benjamin Netanyahou a mis en garde Angela Merkel contre un nouvel afflux de réfugiés syriens en Allemagne. Si rien n'est fait pour contenir l'influence croissante de l'Iran au Moyen-Orient, il a accusé Téhéran d'organiser le déploiement massif en Syrie de milices chiites, originaires notamment d'Afghanistan et du Pakistan, sous commandement militaire iranien, avec un objectif militaire mais aussi religieux. Pour rappel, l'Allemagne a accueilli à partir de l'été 2015 plus d'un million de migrants fuyant pour une grande partie la guerre civile en Syrie. Et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a salué ce lundi les efforts destinés à dépasser les confrontations accomplies par le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui doivent se rencontrer pour un sommet historique le 12 juin. Il s'exprimait en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, après avoir rencontré son homologue chinois, Wang Li. L'arsenal nucléaire nord-coréen et l'amélioration des relations entre Washington et Pyongyang figureront en bonne place de l'ordre du jour du sommet du 12 juin à Singapour. Donald Trump a confirmé sa tenue une semaine après l'avoir annulé en dénonçant l'hostilité de Pyongyang. Et en Afghanistan, un kamikaze a tué au moins 7 personnes ce lundi à Kaboul, la capitale. L'assaillant a déclenché sa bombe près d'un rassemblement d'imams qui voulaient se prononcer pour la paix et contre le terrorisme. En Tunisie, la marine nationale a repris ses recherches ce lundi au large de la région de Sfax, dans le sud du pays, au lendemain de la mort d'au moins 48 migrants dans le naufrage de leur embarcation. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Ainsi s'achève cette édition. Je suis désolée pour tous ces problèmes techniques. On revient vers vous dans 5 minutes pour le récapitulatif de l'information. Mais restez connectés sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.